Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « C'est ton tour, c'est ton tour ». Nous regardons Dieu, ou bien nous avons vu Dieu agir chez les autres. Nous avons vu Dieu faire alliance avec certaines personnes, notamment les témoins qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Mais il est écrit que Jésus-Christ, Hébreux 13:8, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il a utilisé certaines personnes à un moment donné, il n'a pas changé. Il est toujours le même, il peut encore utiliser des gens aujourd'hui. Surtout que ces personnes-là qu'il a utilisées étaient des gens simples. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait Bac plus 20, ce n'étaient pas des gens qui venaient de familles princières, c'était des gens simples, des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts. Bref, c'était n'importe qui, mais dans la main de Dieu, c'est devenu des gens, des héros de la foi, des guerriers, des combattants de la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est ton tour. C'est ton tour de te convertir, c'est à ton tour. Vous savez, les messages du Seigneur sont des enseignements, mais c'est aussi des paroles directes à certains cœurs. Dieu te dit, c'est ton tour. Il faut saisir sa parole et entrer, suivre le même parcours que les gens que Dieu avait choisis autrefois. Nous allons faire un rappel de comment Dieu avait travaillé avec certaines personnes. Nous commencions dans Matthieu 9:9. Comment Dieu appelle Matthieu. En fait, tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous lisons, tu dois te dire, maintenant c'est mon tour. Voilà, nous allons, parce que pour comprendre comment Dieu agit, ben nous lisons comment il a fait avec les gens avant nous. Voilà, c'est Matthieu 9:9 d'abord.
De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit.
Voilà. Comment Jésus appelle Matthieu? Matthieu était dans son bureau. C'était un des chefs des collecteurs d'impôts. Et il était dans son bureau lorsqu'il voit Jésus passer. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Tout ça pour dire quoi? C'est que cet homme qui était considéré comme un mauvais, parce que les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des mauvais, comme des gens méchants qui étaient utilisés par les colons. Les colons de l'époque, c'était les Romains qui avaient colonisé Israël. Et les collecteurs d'impôts prenaient l'argent du peuple juif pour donner aux Romains. Et ils étaient mal vus au milieu des Juifs. Et non seulement ils étaient mal vus parce qu'ils servaient les colons, mais ils étaient mal vus aussi parce qu'ils en profitaient pour surtaxer les gens et gagner de l'argent comme ça. Nous connaissons le plus célèbre d'entre eux, c'est Zachée. Mais là, il s'agit de Matthieu qui est devenu plus tard l'apôtre de Jésus. Vous voyez, il était comme Zachée, donc collecteur d'impôts. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu l'a appelé. C'est pour dire, en quelque sorte, que Dieu nous appelle tous. C'est ton tour. Un jour, Matthieu a entendu la voix de Jésus. Et aujourd'hui, le même Jésus te parle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, il parle. Aujourd'hui encore, il veut choisir des serviteurs. Aujourd'hui encore, il veut sauver. Si tu n'es pas encore sauvé, comme Matthieu à l'époque, entends la voix du Seigneur qui te dit, suis-moi. Il est écrit que Matthieu s'est levé. Et il faut vous rendre compte de ce qui se passe là. Matthieu était un chef de collecteur d'impôts. Ça veut dire que c'était un homme bien placé dans le pays. Et c'était un homme certainement riche. Donc quand il est écrit qu'il suivit Jésus, c'est extraordinaire. C'est un miracle. Comment quelqu'un peut être appelé de son bureau? Ce n'est même pas qu'ils se sont vus dans la rue, mais il est dans son bureau. Il dit, suis-moi. Il lâche son bureau, donc il démissionne. Il démissionne, et de quel travail? Un travail enrichissant. Il démissionne pour suivre le Seigneur. C'est ton tour, mon ami, parce que Matthieu pouvait dire, mais Seigneur, je suis quand même dans le bureau. On parlera de ça après. Je chercherai où tu loges pour venir en discuter avec toi. Il n'a pas discuté, il a suivi. Vous savez, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour balayer toutes sortes d'arguments. Il y en a qui disent, je suis jeune, j'ai encore le temps, ça ne tient pas la route, puisque ce que Matthieu fait là, ça dépasse cet argument-là de dire je suis jeune. Matthieu délaisse un bureau, délaisse un travail pour suivre le Seigneur. Et ça veut dire qu'il va s'attirer des problèmes dans sa famille. C'est quand il va rentrer à la maison et qu'il va dire à sa femme, bon ça y est, j'ai démissionné. Mais pourquoi? Pour suivre Jésus. Mais attends, ce nouveau rabbin, oui, parce que j'ai entendu en lui la voix du ciel. Je crois que c'est ce que Matthieu allait dire à sa femme, j'ai entendu, quand lui il a parlé, j'ai entendu comme si le ciel m'a parlé. Parce que quel argument tu vas dire? Qu'est-ce qui peut te pousser à tout laisser? À démissionner, c'est la puissance du ciel qui peut faire ça. La voix du ciel. Moi, j'ai toujours eu cette impression-là que quand Jésus avait appelé Matthieu, lui, il a entendu une voix qui venait du ciel. Suis-moi. Parce que tu ne peux pas quitter ton bureau comme ça. Et il a dû dire à sa famille, pour s'expliquer, ce que les cousins, les oncles, les tantes vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as démissionné? Il a dû dire, quand ce monsieur-là m'a parlé, j'ai entendu comme Dieu me dire, suis-moi. Je ne pouvais pas résister à ça. C'est ce que le frère Paul dit quand il se retrouve devant le roi Agrippa. Il s'explique pourquoi il est devenu chrétien. Il dit, moi, j'étais un persécuteur de chrétiens. Je les mettais en prison. Mais un jour, pendant que je me dirigeais à Damas pour en chercher et persécuter encore, les lier et les ramener à Jérusalem, à certains en Jérusalem, le Seigneur m'est apparu sur le chemin. Et il explique comment ça s'est passé. Et à la fin, il dit au roi, « Roi, je n'ai pas pu résister à cette vision qui venait d'en haut. Matthieu n'a pas pu résister à cette voix qui est venue d'en haut. Ma prière, c'est que tu saisisses que peut-être c'est un homme qui parle là, mais c'est Dieu qui t'appelle d'en haut pour te dire c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. J'ai appelé Matthieu autrefois. Aujourd'hui, c'est toi que j'appelle. Les gens peuvent dire, j'aime trop le monde, j'aime trop les mauvaises choses. Qui pourra m'en délivrer? Qui pourra m'en libérer? Mais ce que tu aimes ne dépasse pas la puissance de l'argent que Matthieu a délaissé. Ça ne dépasse pas la puissance du poste que Matthieu a délaissé. Ça ne dépasse pas tout ça. Matthieu a laissé un bureau, un poste très élevé à l'époque. Donc, si Il a dit, je suis le maître, je suis Jésus. C'est qu'il a pris conscience que Jésus s'occupait du reste. On dit, je suis, j'ai entendu la voix du ciel. Aujourd'hui, c'est ton tour aussi. C'est à toi de dire, maintenant, j'ai entendu ta voix, Seigneur. Je vais te suivre. Et je voudrais parler aussi en même temps à ceux qui sont déjà chrétiens depuis longtemps pour dire, le Seigneur ne veut pas se contenter de chrétiens étiquettes, des gens qui vivent la vie chrétienne comme un cours de tennis du soir, comme un détail dans leur vie. Pour Matthieu, ça n'a pas été un détail. Il a lâché son poste de collecteur d'impôts pour plus tard de faire partie des 12 qui suivaient Jésus. Quand on dit les 12 qui suivaient Jésus, ça veut dire que partout où Jésus s'en allait, ils étaient avec lui. Ils dormaient avec lui à la belle étoile. Ils allaient de chemin en chemin ensemble. C'est possible. Ça a été possible pour un collecteur d'impôts. Parce qu'on se comprend. C'était quelqu'un qui était riche, qui avait un pouvoir, qui était malhonnête certainement aussi, parce que c'est la réputation de tous à l'époque. Et il lâche tout pour devenir apôtre du Seigneur. Maintenant, moi, je suis en train de parler aux gens qui, de leur propre bouche, disent que je crois en Jésus. Des gens qui disent que j'aime Jésus. Et il y en a même qui rajoutent « je veux le servir ». Mais qu'est-ce qui te retient de tout lâcher et de suivre Jésus comme Matthieu? Matthieu était mauvais, était dans l'autre camp, quand il suit le maître. Mais cette force-là qui l'amène à tout lâcher pour suivre le maître, mais un enfant de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit chrétien, comment lui ne ressent pas ça? C'est la grande question. Est-ce que tu as fait la même rencontre que Matthieu? Il est écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus qui a appelé Matthieu, c'est le Jésus qui existe encore aujourd'hui. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Comment, quand Jésus appelle Matthieu, Matthieu laisse tout et suit. Maintenant, Jésus t'appelle toi, mais tu ne veux pas lâcher. Et en plus, tu fais partie de ses disciples. La grande question est celle-là. Est-ce que tu as entendu le même Jésus? Et mon souhait aujourd'hui, c'est que tu entendes le même Jésus que Matthieu. Qu'aujourd'hui, ça soit du sérieux. C'est-à-dire que tu ne relativises plus. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes en face de Jésus. Voilà ma prière de ce matin. Que tu sois en face de Jésus, que tu ne sois pas dans une église. En chantant avec les frères et sœurs, mais que je sois en face de Jésus, que tu sois en face de Jésus, comme Matthieu qui te dit, suis-moi. Voilà, le Seigneur te dit, suis-moi. Et Matthieu s'est levé, il a suivi. Combien de chrétiens sont accrochés à eux-mêmes, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils ont, et n'arrivent pas à suivre le maître comme Matthieu l'a suivi. Je donne l'exemple de Matthieu parce qu'il nous faut des exemples. Parce que l'enseignement, c'est ton tour. Mais c'est ton tour, et avant c'était le tour de qui? C'était le tour de Matthieu. Alors regarde ce qui s'est passé avec Matthieu. Nous allons lire le tour de Pierre dans Luc 5. Luc 5, 1 à 11. On va voir, c'est important. Ce Jésus-là qui a appelé ces gens, c'est le même Jésus d'aujourd'hui. Bien-aimé, sois en face de Jésus aujourd'hui. Pas dans une église, en face de Jésus lui-même. Luc 5, 1 à 11.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Amen. Le même terme est le suivir. À partir de ce jour-là, Pierre abandonne la pêche. Est-ce qu'on comprend ce qui vient de se passer? C'est qu'à partir de ce jour-là, Pierre et ses amis, les gens et autres, André, son frère, ils abandonnent la pêche, ils suivent le maître, ils suivent Jésus. Il y a deux phases dans cette affaire. Il y a la première phase où Pierre, il sait que Jésus c'est un maître, c'est un rabbin, c'est quelqu'un qui dispense la parole. Et tu peux être dans cette phase-là, où tu sais que Jésus, théoriquement, c'est le Fils de Dieu. C'est quelqu'un qui nous montre la voie pour aller au ciel. Tu es dans cette phase-là. Et ça reste comme une sorte de livre que tu lis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce rabbin lui dit, écoute, est-ce qu'on peut aller un peu dans l'eau, nous éloigner de la rive et arriver un peu loin? Il dit à Pierre, jette le filet pour prendre du poisson. Pierre lui dit, je suis un professionnel. Pendant toute la nuit, au moment favorable, nous avons jeté le filet et nous n'avons rien pris. Mais je reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Je vais t'obéir quand même. Nous allons jeter le filet. Après tout, nous perdons quoi à jeter le filet? C'est un geste qui est habituel pour nous. Ils ont jeté le filet. Et surprise, le filet est tellement rempli qu'il faut l'aide d'une deuxième barque pour récolter les poissons. Alors Pierre est dépassé. Il a dit, ce monsieur a créé le poisson, puisque c'est impossible. Je suis un professionnel. Au moment où nous avons jeté le filet, c'est le moment où on pouvait trouver du poisson. À l'heure où lui me demande de jeter, c'est impossible. Si nous avons pu trouver du poisson, c'est qu'il a créé ça. C'est qu'il a fait venir ça. Admettons, soyons doux. C'est qu'il a fait venir ces poissons. Qu'il ait créé ou fait venir, c'est extraordinaire. C'est impossible. Et quelle quantité! Alors Pierre se prosterne devant lui et dit, Seigneur, tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. Aucun homme n'a créé du poisson en grande quantité comme ça. Tu n'es pas un simple homme. Il s'est prosterné devant lui. Et arrivé à la rive, ils ont abandonné, vous voyez la quantité qu'ils ont prise là, c'est une quantité qui allait les enrichir, même qui allait faire qu'ils ne pêchent plus pendant un temps. Mais il est écrit qu'ils abandonnèrent tout. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ils abandonnèrent tout. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire le mot tout? Voilà. Je ne veux pas expliquer ce mot-là. Je veux que le même Jésus qui est là, que nous lisons, parle à chacun, explique à chacun ce tout pour lui. Chacun a son tout. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Pourquoi? La question, c'est qu'ils ont compris que ce n'était pas un homme normal. C'était quelqu'un qui est venu du ciel pour les hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends de Jésus? Ne sois pas dans une église aujourd'hui, dans un groupe aujourd'hui, sois en face de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu peux dire que dans ta vie, tu n'as pas vu sa marque céleste? Il n'a pas fait quelque chose dans ta vie pour montrer son empreinte céleste. Si c'est le cas, alors pourquoi tu n'abandonnes pas tout pour le suivre? Pierre a vu la multiplication des poissons, il a dit non, ce n'est pas normal. Déjà, il a dit, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas. Tu n'es pas quelqu'un que moi je peux approcher. Tu es très élevé. Pour créer du poisson, tu es très élevé. Mais le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas. Je ferai de toi maintenant un pêcheur d'hommes. Ah, c'est le Seigneur lui-même qui m'invite. Mais devant une telle invitation, je cours. Il est écrit, ils abandonnent tout, ils le suivent. Puisque, il dit, mais c'est lui qui m'invite, quelqu'un qui peut créer du poisson, qui m'invite moi? Mais je laisse tout, je cours. C'est pourquoi je dis que nous devons être en face de Jésus. Le problème, c'est que nous avons été longtemps dans un groupe, écoutant des enseignements comme on a entendu des cours à l'école. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. C'est de lui qu'on parle. J'ai un ami qui a eu un jour une vision. Il était dans sa chambre. Et le Seigneur lui est apparu avec la grande lumière. Il dit, l'ampoule s'est éteinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu ce jour-là. Au fait, l'ampoule de sa chambre ne s'était pas éteinte. La lampe ne s'était pas éteinte. Au fait, la lumière de Jésus est tellement grande que ça donne l'impression que la lumière qui était dans sa chambre était obscurité. Voilà. Il dit, ma lampe de chambre n'éclairait plus quand j'ai vu la lumière du Seigneur. Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une, il est écrit une grande lumière, il n'est pas écrit une lumière, une grande lumière. Et ce jour-là, Pierre a vu cette lumière-là. Sa vie a été transformée. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La question aujourd'hui, est-ce que tu vois Jésus comme Pierre l'a vu ou pas? Si tu le vois comme Pierre l'a vu, la conséquence c'est que Pierre a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Puisqu'il a vu la lumière qui éteint le soleil. Quelqu'un d'autre aussi a raconté ça. Il a dit, quand il a vu le Seigneur, c'était une lumière plus grande que la lumière du soleil. Je crois que c'est Paul peut-être qui en parle dans sa vision. Il dit, mais c'était une lumière plus forte que la lumière du soleil. Donc, quand lui, il paraît, le soleil paraît s'éteindre. La lampe paraît s'éteindre. C'est la grande lumière. Et quand tu vois ça, tu dis quoi? Il dit, calme-toi, Pierre. Je veux faire de toi un pêcheur d'homme maintenant. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'homme. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Il est écrit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Nous revenons à notre titre. C'est ton tour aujourd'hui. C'est ton tour. Nous n'avons pas beaucoup à dire. C'est ton tour. Maintenant, il y a des gens qui disent, je ne serai pas capable. Nous lisons 1 Corinthiens 1, 26 à 27. Je ne serai pas capable parce que je n'ai pas une bonne... 1 Corinthiens 1, 26 à 27, 26 à 29, excusez-moi. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas fait de longues études. Il y a des gens qui disent, j'ai trop péché autrefois. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas la taille qu'il faut. Je n'ai pas la parole, je ne parle pas facilement. Voilà, et toutes sortes de raisons. Il y a des gens même qui disent, je suis trop faible. Je suis trop faible. Et nous allons lire 1 Corinthiens 1, 26 à 29.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Amen, amen. Est-ce que nous avons bien lu? Est-ce que tu peux relire, Jacques?
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont.
Amen, amen. Afin que...
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, les raisons que tu donnes, je suis faible par rapport à un tel péché, j'ai tel problème d'études, Dieu t'informe que ça lui fait plaisir d'utiliser quelqu'un comme toi, puisqu'après tu ne diras pas que ce sont tes études, c'est ta force d'avant. Il dit, au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est prendre des gens comme toi, afin qu'un jour tu ne dises pas j'étais fort, afin qu'un jour tu ne dises pas je connaissais, j'aimais déjà la vérité avant. Il veut prendre des gens comme ça. Il dit, mais considérez parmi, parce qu'aujourd'hui nous parlons aujourd'hui, nous les considérons comme dans le passé, mais là quand il parle au présent. Mais nous aujourd'hui nous parlons au passé, considérons les gens que Dieu a appelés avant. Il a appelé Pierre. Nous avons vu Pierre, non? Comment Pierre a renié le Seigneur. Nous avons vu Pierre s'opposer au Seigneur quand le Seigneur dit « Je vais aller à la croix ». Mais c'est ce monsieur-là qu'il a choisi pour être une colonne pour son Église. Nous les avons vus quand Jésus est ressuscité. Est-ce qu'ils ont cru? Non. C'est les femmes qui leur ont dit Jésus ressuscité, mais ils ont dit mais c'est les élucubrations des femmes. Ils n'ont pas cru, bien-aimés. Et pourtant, Jésus leur avait dit. Est-ce que vous voyez la gravité de l'affaire? Parce que toi, tu crois que Jésus est ressuscité, mais tu n'as jamais vu Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, vous avez une sorte de récompense céleste grande, vous qui croyez en lui sans l'avoir vu. Mais eux, ils l'ont vu. À eux, il a dit, je ressusciterai, mais ils n'ont pas cru. Mais c'est encore eux que Jésus utilise. Parce que Jésus, et tu prends les gens faibles pour en faire des gens remplis de la puissance du Saint-Esprit et glorifier son nom. De sorte que les gens disent, Jésus est grand. Puisque la personne que nous connaissons, nous la connaissons telle qu'elle était. elle était faible, elle aimait beaucoup telle chose. Là, c'est une autre personne. Jésus est grand. Donc les arguments de dire « j'aime trop ceci, je suis faible, il me manque cela », ça ne tient pas la route. Dire, regardez, parmi tout ce que Dieu appelait autrefois, il n'y a pas beaucoup de puissants. Il y en a, mais il y en a peu. Comme Paul était un grand intellectuel, un grand intellectuel, mais voilà, il y en avait combien? Il n'y avait que lui pratiquement. Mais même s'il était un grand intellectuel, mais il était aussi un ennemi de Jésus, un ennemi de l'Église. Mais c'est lui que Dieu appelle. Il appelle son ennemi pour serviteur, comme serviteur. Donc qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Que la jeunesse est un obstacle pour toi? Non, la jeunesse n'est pas un obstacle devant la grande puissance de Dieu. Regardons les gens que Dieu a appelés avant. Corinthiens 1, 26 à 29 nous dit, mais c'était des gens simples. Mais nous devons le dire, c'était des gens simples. Des gens, vous savez, même Pierre, plus tard, a fait une grande hypocrisie concernant la gestion des frères qui étaient d'origine non-juive. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu l'a utilisé puissamment. C'est Dieu qui agit. La différence, c'est avant et après le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit saisit un homme, c'est Jésus lui-même qui vit dans cet homme-là qui travaille. Cet homme devient comme Jésus. Il appelle tout le monde. Parce que quand aujourd'hui on parle, nous parlons, mais les gens ont dit, mais eux, ils ont entendu la voix de Jésus, mais toi aussi tu es en train d'entendre sa voix-là. Il t'appelle aujourd'hui. Parce qu'il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce n'est plus Jésus qui allait parler, là c'est Jésus qui est en train de pêcher Pierre. Mais après c'est Pierre qui allait pêcher d'autres. Et après, il a dit aux Pierre et aux autres de nous former, nous, pour que nous aussi, on pêche d'autres personnes. Donc, quand je parle comme ça, je parle au nom de Jésus. C'est Jésus qui te parle. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu résistes à tout abandonner et à le suivre? Tu n'as pas vu la grande lumière qu'il représente. Tu n'as pas compris qu'il est le Créateur, qu'il est le Sauveur, qu'il est mort pour toi à la croix. Qu'est-ce qui peut te freiner? Rien ne peut dépasser la puissance de Dieu. Rien ne peut dépasser, ni même l'argent, rien du tout. Même, vous savez, l'apôtre Paul avait une grande valeur. C'était un homme puissant. Il avait une grande valeur religieuse. Même ça, ça n'a pas empêché qu'il serve le Seigneur. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu quoi? Une grande lumière. Vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, il a dit, j'ai vu une grande lumière qui est tombée sur moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus est la lumière du monde. Ma prière, c'est que tu la vois aujourd'hui. Que tu réalises que tu perds du temps à rester dans ton monde humain dans lequel tu n'es devenu que juste un chrétien de nom. Il est temps de suivre Jésus à 100%, de tout lâcher pour le suivre. C'est ça qui importe pour lui. Il y a des gens qui disent, mais comment je vais faire? Nous allons lire dans Jacques 1, versets 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17. Le problème, ce n'est pas ta famille, Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce n'est pas ton travail. Tout ça, eh ben, nous venons de voir qu'il y a des gens qui ont dépassé tout ça parce qu'ils ont vu la grande lumière du Seigneur. Le problème, est-ce que tu vois le Seigneur? Est-ce que tu comprends qui est le Seigneur? C'est plutôt ça le problème. Tout le reste, dire « Ah, c'est un tel péché qui me bloque », c'est faux. Est-ce que tu as vu le Seigneur? Voilà, c'est ça la question. Ah oui, je suis trop vieux. C'est faux. Je vous ai déjà raconté le témoignage d'un frère que nous avons ramené à Christ quand j'étais parti à l'île de la Réunion. Et plus tard, il est venu se faire baptiser ici à Rouen. Et à l'époque, il avait 74 ans et il était d'une santé fragile. Il était frêle, avec une santé fragile. Mais il a eu une vision. Il a vu l'ancien des jours. Et l'ancien des jours lui a dit, j'ai un appel pour toi et le chemin est long. Alors quand il me dit qu'on lui a dit le chemin est long, j'ai dit, ah bon? Donc ce monsieur, il peut vivre encore longtemps. Voilà. Et puisque quand vous le voyez, vous voyez bien qu'il était partant. Mais dans la vision, l'ancien des jours lui dit, le chemin est encore long, je t'appelle. Donc rien ne peut freiner Dieu, rien. Même pas, ni même l'âge, ni même pas l'âge. Nous lisons Jacques 1.
Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Amen. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui. Ce qui fera de toi son serviteur, ça viendra de lui. Tu n'as pas à calculer ça. Tu n'as pas à envier quelqu'un d'autre. Parce que ce que quelqu'un la manifeste, ça vient de Jésus, ça ne vient pas de lui. Puisque cette personne-là, si tu demandes aux gens qui l'ont connu avant, ils te diront, nous n'aurions jamais cru qu'il se convertisse celui-là. Ils te diront, lui, mais c'est un bandit. Aujourd'hui, toi, tu le vois, tu dis, mais il brille, mais ce n'est pas lui. C'est Jésus en lui qui brille. D'ailleurs, nous allons clôturer avec ce sujet-là, mais nous revenons sur tout don parfait, toute grâce excellente, ça vient de Dieu. Pourquoi il rajoute, chez qui, hein, est-ce qu'on peut lire le verset 17?
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Amen. Alors nous allons parler du contexte. Vous savez, les gens qui écrivent, ils écrivent de la part du Saint-Esprit, mais ils utilisent les choses de leur époque. Par exemple, dans la Bible, vous n'allez pas entendre parler d'avion ni de voiture, parce que les gens qui écrivaient, ils vivaient avec les chevaux et les chariots et les chars. Quand Jacques dit que chez Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation, ni de... J'aimerais qu'on relise, c'est cette partie-là qu'on lise. Voilà. Il n'y a pas de changement, ni
ombre de variation.
Ni ombre de variation. En fait, il faudrait dire ni variation d'ombre. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, quand nous regardons l'heure, nous avons des montres. À leur époque, il n'y avait pas de montre. Et ils comptaient l'heure avec ce qu'on appelle un cadran solaire. C'est quoi un cadran solaire? C'est, tu prends un cercle, tu fais par terre, tu mets un bâton au milieu, au centre. Maintenant, en fonction du mouvement du soleil, le bâton fait une ombre. Vous savez que quand le soleil éclaire, il y a des ombres. Nous-mêmes, nous produisons une ombre. Et donc, le bâton fait une ombre qui a une taille et une direction. Et en fonction de la taille de l'ombre et de sa direction, les gens avaient compris, il est telle heure. Et vous savez, quand il est midi, qui connaît le terme, le soleil est au zénith. Ça veut dire que le soleil est à la verticale de là où tu es. C'est là qu'il est midi. Maintenant, quand il est midi, il n'y a plus quoi ? Il n'y a plus d'ombre. C'est le moment où le soleil éclaire à son maximum. Il n'y a plus d'ombre. Jacques est en train de dire, nous avons un Dieu qui éclaire toujours à midi. Il n'éclaire jamais à côté pour qu'il y ait de l'ombre. Il est toujours dans son maximum, même aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est pourquoi il n'est pas d'accord quand tu regardes à toi pour juger de ton avenir. Il dit, ben nous avons affaire à celui qui éclaire de l'éclairage de midi, où il n'y a pas d'ombre. Parce qu'en ce moment-là, le soleil est à la verticale du bâton. Donc il n'y a plus d'ombre. Les gens savent, là il n'y a plus d'ombre, nous sommes midi. Là l'éclairage est au maximum. Ça, c'est notre Dieu. Il est celui dont l'éclairage est au maximum. Mais maintenant, à tout moment, puisque le soleil normal ne donne pas l'éclairage maximum à un endroit. C'est, il faut arriver à midi pour qu'il donne son éclairage maximal. Mais notre Dieu, Jacques dit, lui n'est pas comme ça. Avec lui, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. C'est toujours midi. Voilà à qui nous avons affaire. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu prends ton tour ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe 42:8? Ce n'était pas prévu, mais le diacre Frêle va nous lire ça. Ce n'était pas prévu parce que je considère que nous connaissons ce passage, mais j'aimerais que ça soit lu par quelqu'un d'autre. Ésaïe 42:8. Ésaïe 42:8.
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Ni mon honneur aux idoles.
Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous nous souvenons de Paul, nous disons, ah, Paul, il était extraordinaire. David était extraordinaire. Jean, n'en parlons pas, l'apôtre de l'amour. John Wesley. Là, maintenant, nous commençons à approcher vers nous. Renard Bonquet. George Jeffrey. Mais c'est des gens que Dieu a utilisés. Mais Dieu n'est pas d'accord qu'on donne sa gloire à un homme. Il veut que tu comprennes que Jésus qui a utilisé John Wesley, il est là encore en face de toi. Ce n'est pas pour que nous puissions entrer dans l'orgueil et ne plus considérer le ministère des autres. Au contraire, chacun a sa fonction dans le corps. C'est juste pour comprendre une chose, que tout don parfait vient de Dieu. Passer son temps à exalter les serviteurs du passé, c'est négliger Dieu. C'est négliger Jésus. Ce que tu dois dire, c'est quoi? Pour moi aussi, Seigneur, je veux que tu te manifestes. C'est ça, valoriser Jésus. J'ai vu ton action chez John Patton, à l'île d'Aniwa. Je veux que, dans ma vie aussi, tu sois le même. Tu sois le même. Dieu n'aime pas que quelqu'un d'autre prenne sa gloire. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à parler d'autres. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui caractérise ces gens-là? C'était des gens faibles. C'était des gens parfois dans le péché comme Matthieu. Des gens têtus comme Pierre. Mais ils ont deux points communs, ces gens-là. Premier point commun, ils ont été sublimés par Jésus. Ils ont eu foi en Jésus. Ils ont été émerveillés par Jésus. Et ils ont eu foi en lui. Voilà. Premier point commun. C'était des gens parfois plus mauvais que nous, comme Paul qui enfermait les gens en prison. Lorsqu'on a tué Étienne, c'est lui qui gardait les vêtements de ceux qui tuaient Étienne. Mais ces gens-là ont été émerveillés par Jésus. Si Jésus n'était merveille pas au-dessus de l'argent, au-dessus des vêtements, au-dessus des choses de la terre, il y a un problème. Tu dois demander cet émerveillement. Tu dois dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Ils ont eu foi en Jésus. C'était des gens simples, mais ils ont eu foi. Deuxième chose qu'on a lu dans Luc 5, ils ont tout abandonné et ils ont suivi le Seigneur. C'est les deux choses qui font quand même la différence. Nous n'allons pas parler comme certains serviteurs qui disent, mais il n'y a que l'Esprit Saint, il n'y a pas que l'Esprit Saint. Il y a aussi le fait qu'un homme accepte, voit Jésus tel qu'il est, croit en lui et abandonne tout. Le choix de tout abandonner, c'est chacun qui doit le faire. L'Esprit Saint va y travailler. C'est lui qui fait la différence. C'est lui le don parfait. C'est lui la grâce excellente. Mais Dieu nous demande à nous de regarder comment il est beau, comment il est grand, il est puissant. Regarde comment je suis. Et suis-moi. Voilà. Là, il demande à notre cœur. Et lorsque nous entrons dans cela, là, le don parfait, la grâce excellente, l'Esprit Saint, c'est lui qui va nous sublimer, qui va transformer les choses, c'est lui qui va encore multiplier la foi, tout ce que tu veux, mais il y a une base que Dieu nous demande. Être émerveillé par lui, avoir foi en lui et tout abandonner pour le suivre. Nous clôturons avec notre frère Pierre. Parce que là, nous venons de donner les deux conditions. Regarder au Seigneur, avoir foi en lui et tout abandonner pour le suivre. Et bien aimé, maintenant, cette décision-là, elle découle de ce que tu as vu. Le frère Pierre a vu Jésus multiplier les poissons, créer du poisson. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Qu'il suive les poissons ou Jésus? Ben, entre nous. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Les gens parfois se demandent pourquoi je parle souvent de l'argent. Mais oui, parce que j'ai vu la supériorité de Dieu par rapport à l'argent. Je vous ai raconté qu'un jour, quand j'étais dans la région parisienne, je n'avais que 10 francs. À l'époque, c'était les francs. Je n'avais que 10 francs. J'entre à Carrefour pour faire mes courses. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais j'ai que 10 francs. Pourtant, il y a beaucoup de choses à acheter. Je remets ma main dans la poche, ça devient 60. Alors, vous voulez que aujourd'hui, je laisse l'argent dominer les gens alors que moi, j'ai vu plus grand que lui? Non. Je vous ai raconté comment les gens m'avaient prophétisé que j'allais frauder dans le métro parisien, que je le veuille ou pas, c'est la tradition de tout le monde. C'est le chemin obligé pour tout le monde. Et moi, je leur avais dit, avec Jésus, je ne frauderai jamais. Eh bien, on verra qu'ils avaient dit. Et à chaque fois, alors que j'étais sans travail, il y avait toujours quelqu'un pour me donner quelque chose. Et puis est venu un samedi. Jusqu'au samedi, il n'y avait personne. Et dimanche, je me suis dit, alors là, lundi, je suis obligé de me déplacer. Je vais faire comment? Et dimanche, en mettant ma veste pour aller au culte, je vois l'argent dans la poche de ma veste, qui était suffisant pour que je paye encore mon coupon de la semaine. Et puis venu un jour, jusque au dimanche, je mets le vêtement, il n'y a rien dans les poches, et je sors de l'appartement, je vois 200 francs laissés devant la porte de l'appartement. Vous voulez que je dise quoi? Quand je parle de Jésus, j'ai vu la grande lumière, bien-aimé. Vous voulez que je dise quoi? Alors, si tu as vu cette lumière, c'est normal, après que Pierre abandonne tout, ils suivent. Qui suivent quoi? Les poissons que Jésus a créés ou Jésus qui crée le poisson? Finissons avec tout. Pierre, je l'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Un jour, Jésus-Christ leur a dit, avancez, moi je viens vous rejoindre plus tard. Ils sont partis dans la barque, c'était la nuit. Et je vais me lever. À un moment donné, Jésus vient dans l'eau. Eux, ils étaient dans la barque, il faisait nuit. Et Jésus leur parle. Ils reconnaissent à peu près sa voix. Mais qu'est-ce qu'il peut faire un être humain dans l'eau, sur l'eau? Comment ils peuvent? C'est pas possible. C'est certainement un fantôme. Ils ont reconnu, puisque c'est la nuit, ils reconnaissent à peu près la voix. Mais il n'a pas de bateau, il n'a pas d'embarcation, donc il est sur l'eau. Est-ce que c'est vraiment lui? Pierre dit, Seigneur, parce que toutes les autres ont peur, tout le monde a peur. Mais Pierre, dans sa peur, il dit, mais Seigneur, si c'est toi, fais que je marche aussi comme toi. Vous savez, c'est ça qui fait la différence. On peut vous raconter toutes sortes de bêtises de Pierre, mais voilà la différence qui fait qu'il a été choisi. C'est qu'il a dit, ben, si Jésus est comme ça, ben qu'il fasse que je sois pareil. Fais que ça soit pareil pour moi. Jésus dit, viens. Les autres aussi pouvaient se dire, ah ben oui, mais puisqu'il appelle Pierre, nous tous on y va. Ah mais ils n'ont pas voulu. Hein. Et donc quand Pierre pose les pieds sur l'eau, et il s'attendait à plouf, mais il n'y a pas eu de plouf. Pierre a marché sur les eaux. Parce que Pierre, c'était simple pour lui. Si c'est le Seigneur, il peut le faire pour moi. C'est ça notre clôture. Si le Seigneur est le Seigneur qui a appelé Pierre, Jean, c'est le Seigneur de la Pentecôte, mais tu dois lui dire, fais pareil pour moi aussi. Au lieu de continuer à faire comme ça, des tours, il faut lui dire, comme Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, fais la même chose. Jésus dit, ben oui, je vais le faire. Bien-aimé, au lieu de polémiquer sur tes souffrances, de polémiquer sur les échecs du passé, dis au Seigneur, si c'est toi qui parles là, je veux que tu transformes ma vie, que tu fasses ce que tu prétends là. Pierre dit, si c'est toi qui marches sur l'eau, mais je veux moi aussi marcher sur l'eau. Je réaliserai que c'est bien toi. Mais nous savons qu'il est ce qu'il est. Mais nous sommes restés à l'écart, attendant que de lui-même il nous fasse ceci, il nous fasse cela. Non, tu dois décider. Seigneur, si c'est toi qui as utilisé Pierre, si c'est toi qui as utilisé Jean, si c'est toi qui as transformé Zachée, tu peux me transformer aussi. C'est le moment de dire, c'est mon tour maintenant, Seigneur. C'est mon tour. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur tel que il va être inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, je viens te dire que je reconnais, Seigneur, ta grandeur. Créateur des poissons en un instant, je reconnais ta grandeur quand je vois Paul te servir. Je reconnais que c'est toi qui as utilisé Esaïe, c'est toi qui as utilisé Jean, Jacques le Juste. Je reconnais que c'est toi qui as utilisé les Wesley et les autres, Seigneur. Alors nous voulons demander, Seigneur, te demander de faire la même chose pour nous. Et aujourd'hui, je prie que ce soit mon tour. Que ce soit le tour de mon frère pour la conversion et pour le service. Le tour de ma sœur pour abandonner tout entre tes mains et te servir et te suivre. Merci de te manifester dans ta bonté, dans ta puissance. Nous t'appelons, Seigneur.
Seigneur,
nous te demandons de tout prendre. De prendre le contrôle de notre âme, de notre esprit, de notre corps, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour Jean, comme tu l'as fait pour le frère Paul. Ô Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi à ceux qui ne t'ont pas encore vu, rencontré, révèle-toi aujourd'hui, que la révélation de ta grandeur, de ton amour, amène chacun à tout lâcher pour te suivre comme Pierre l'avait fait. Merci de te manifester dans ta gloire. Toi, chez qui il n'y a pas de variation d'ombre, Seigneur. Tu es celui qui éclaire puissamment en tout moment. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous voulons voir la puissance de ton esprit agir. Faire éclater la gloire de Jésus, de sorte que chacun de nous soit conscient que c'est Jésus qui agit en lui, que ce n'est pas lui-même, Seigneur. Manifeste-toi. Comme Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, fais que je marche comme toi. Nous te disons, nous savons que c'est toi, Seigneur, qui nous parle. Alors fais que nous marchions comme toi également. Fais que nous fassions les miracles comme toi. Fais que nous aimions le Père comme toi. Fais que nous puissions aimer l'humanité comme toi pour nous consacrer au salut de l'humanité, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Merci, Seigneur, de nous saisir.